Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale devra avoir lieu ce mercredi après-midi. Les députés nationaux sont invités à se présenter au Palais du Peuple dès 11h locales. Tous les postes de ce bureau ont des candidatures uniques, à l'exception de celui des rapporteurs adjoints. Nous serons en direct du Palais du Peuple tout à l'heure avec notre reporter Michel Kifine Dangoy. 5 femmes violées et 5 passagers grièvement blessés. Bilan de l'attaque par des hommes armés de 2 embarcations dans la nuit de lundi à hier mardi sur la rivière Kwango au village Ibatanku. Des passagers ont été ligotés, torturés et tous leurs biens volés. Les 2 baleiniers venaient de Tembo, territoire de Kasongolunda, et se rendaient à la commune rurale du Pont Kwango. Abbé Jean Bosco Bahala est l'invité de ce journal. Le coordonnateur national du PDDRCS parle du déroulement de ce processus en Ituri en vue de la restauration de la paix dans cette province. Bonjour à tous. C'est finalement cet après-midi que devra avoir lieu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux sont invités à la séance plénière dès 11h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Tous les postes de ce bureau ont des candidatures uniques, à l'exception de celui de rapporteur adjoint. Retrouvons au Palais du Peuple notre reporter permanent à l'Assemblée nationale, Michel Kifine Dangoy. Bonjour Michel. Quelle est l'ambiance au Palais du Peuple en ce moment?
Bonjour Noëlla, vous êtes en train d'écouter une ambiance pas d'habitude ici au Palais du Peuple. Les militants et sympathisants des candidats sont venus soutenir les leurs et ils sont en train de scander des chants attendant que les élections ne débutent. Et en tout cas, aujourd'hui au Palais du Peuple, c'est une ambiance de fête qui y règne en ce moment.
Qui sont dans la course pour ces élections, Michel?
Alors, ces élections n'auront pas beaucoup d'enjeux en ce moment parce que tous les postes ont presque des candidatures uniques en dehors de celui des rapporteurs adjoints qui revient à l'opposition et qui a 2 candidatures, celle d'Ensemble pour la République avec Dominique Munongo et celle de Dupro avec Constant Mutamba. Au poste du président, il y a Vital Kamerhe qui est le seul candidat. Au poste du premier vice-président, c'est Jean-Claude Tshilumbaï qui est aussi seul candidat. Deuxième vice-président, Christophe Mbosso qui est également candidat unique. Le professeur Jacques Joly est candidat rapporteur. Et c'est au poste de candidat rapporteur adjoint où on a 2 candidatures, celle de Dominique Munongo de Ensemble pour la République et celle de Constant Mutamba de Dipro. Alors au poste de questeur, nous avons une seule candidate, celle de l'APCA, Chimène Polipoli. Et au poste de questeur adjointe aussi, nous avons une seule candidate, celle qui venait de remplacer Caroline Bemba. C'est une candidate élue de Bazouélé, elle est du regroupement AAAP, elle s'appelle Grace Nema. Voilà un peu le ticket aujourd'hui de ces élections.
Oui Michel, quels sont les vrais enjeux autour de ces élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale?
L'enjeu majeur sera au niveau de l'élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rapporteur adjoint. Vous savez, le poste de rapporteur adjoint revient à l'opposition et dans l'entente autour de l'opposition, c'est Ensemble pour la République qui devrait présenter son candidat. Mais Dipro, qui est aussi de l'opposition, Constant Mutamba, n'a pas avalisé le choix d'Ensemble pour la République. Pour rappel, Dipro a 2 députés et a pu introduire aussi sa candidature, espérant être élu par les députés de la majorité parlementaire, donc de l'Union sacrée. Et si jamais Dipro passait, puisqu'ayant plus de voix des députés de la majorité, donc pratiquement Ensemble sera complètement effacé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et la voix de l'opposition aura des difficultés de se faire entendre.
Merci Michel Kifindangoy. Je rappelle que vous nous parliez depuis le Palais du Peuple où devra se tenir cet après-midi l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, au Nord Kivu débute ce mercredi la campagne pour l'élection des sénateurs. Au regard de la liste définitive transmise par la CENI au bureau de l'Assemblée provinciale, 34 candidats sont alignés pour prendre la parole afin de convaincre les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Ceci conformément à l'article 104 de la Constitution de la RDC. Chris Moukand.
C'est la salle de conférence de la BDGEL, la Banque de développement des États de Grand Lac, qui abrite cet exercice. L'audition des allocutions des candidats sénateurs va s'étendre sur 3 jours. Chacun candidat dispose de 30 minutes, dont 10 pour son discours, et les 20 autres consacrés au débat, questions et répliques. Ainsi, par jour, ce sont plus ou moins 10 candidats qui vont se présenter afin de défendre leurs idées et visions devant la représentation provinciale du Nord Kivu. La liste définitive de la CENI, transmise au bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, renseigne que 12 candidats sont indépendants, 3 sont proposés par un parti politique, l'UDPS Tshisekedi, et les 19 autres candidats proviennent des 9 différents regroupements politiques, dont entre autres ABAR-A-UNC, AB50 ou CODE. À noter qu'au nombre de candidats sénateurs, on compte 8 femmes. Avec l'organisation de l'élection des sénateurs, on peut affirmer que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, dont les activités avaient été suspendues avec l'instauration de l'état des sièges, est à nouveau opérationnelle, fait observer une certaine opinion. Chris Moukand, Radio Kapi, Goma.
En Ituri, la campagne pour l'élection des sénateurs se clôture ce mercredi avec 52 candidats en lice, dont 4 femmes. Chacun présente son programme devant les députés dans la salle de plénière pour maximiser sa chance de réussite. Selon le président intérimaire de cet organe, une dizaine de ses élus a battu campagne depuis lundi et d'autres ont envoyé leurs discours qui sont lus devant le public. Il ajoute que certains candidats étaient déjà soumis à cet exercice parlementaire avant le report de ce scrutin initialement prévu le 8 mai. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI confirme la tenue de l'élection pour ce vendredi pour briguer 4 sièges. Deux embarcations en provenance de Tembo, dans le territoire de Kasongolunda pour la commune rurale du pont Kwango, ont été attaquées lundi à Ibanda-Taku, sur la rivière Kwango, par les miliciens Mobondo. Bilan, 5 femmes violées par ces hommes armés et 5 passagers grièvement blessés. Les passagers ont été ligotés, torturés et tous leurs biens extorqués. Information est livrée par le député provincial élu de Kasongolunda, Achille Kidimbu, et le bourgmestre de la commune rurale du pont Kwango. Ils invitent le gouvernement à intervenir pour sécuriser ce coin de la province du Kwango. Plus d'explications avec vous, Irène Mbomaluzolo.
D'après le député provincial Achille Kidimbu, les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi au niveau du village Imbandateko, situé non loin de la commune rurale du pont Kwango dans le territoire de Popokabaka. L'élu de Kasongolunda indique que ces miliciens Mobondo munis des armes ont attaqué ces deux baleinières sur la rivière Kwango et ont pris de force 5 jeunes femmes qu'ils ont ramenées et violées dans leur retranchement.
Les attaquants Mobondo ont attaqué le baleinière en provenance de Tembo. Ils ont extorqué tous leurs biens, les téléphones, l'argent. Ils ont même violé certaines femmes. Ils ont eu 5 jeunes filles vers 20h. On les a emportées chez eux dans leur cabane pour les retourner à 5h du matin. Ils ont ligoté les gens.
La même source parle aussi de 5 blessés graves, dont 3 sont pris en charge à Pont Kwango et 2 autres se sont rendus à Kinshasa pour des soins appropriés. Achille Kindimbu appelle au renforcement des mesures sécuritaires pour maintenir le trafic dans ce coin de la province du Kwango. Le bourgmestre de la commune rurale du pont Kwango, qui livre la même information, rapporte que toutes les embarcations passant par ces villages sont victimes de tracasseries de la part des miliciens Mobondo. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, de violents affrontements opposent depuis tôt ce matin l'armée congolaise à ses alliés, aux hommes du M23 et RDF sur plusieurs fronts. C'est notamment sur l'axe Bwerimana-Chacha et dans le secteur Ufamandu, territoire de Masisi, ainsi qu'autour de la Rwindi dans le territoire de Rutshuru. Aucun bilan n'est encore disponible, Bernard Denyangi.
C'est autour des 6 heures locales que l'armée congolaise et ses alliés ont lancé une vaste offensive, selon les termes de certaines sources officielles, sur les positions des rebelles M23, recourant à de l'artillerie lourde. C'est notamment en direction de la colline Ndumba, surplombant l'axe Bwerimana-Chacha dans le sud du territoire de Masisi, mais aussi sur la Rwindi, en territoire de Rutshuru. Par ailleurs, Les groupes armés locaux ont repris ce matin des attaques contre les rebelles sur les collines Kabingu et Kasaki, c'est respectivement dans le groupement Mufuni-Shanga et groupement Ufumando Premier en territoire de Masisi. Ce village montagneux surplombe Remeka et Ngungu dans le Ufumando Premier. Il y a encore peu de détails sur l'évolution de ces combats. Toutefois, selon certaines sources proches de l'armée, les FRDC auraient l'intention de déloger les rebelles de Chacha et Kiroche pour ouvrir la route Goma-Minova. Pendant ce temps, ces sources signalent la reconquête par les groupes armés de ces autres villages Kabingu et Kasaki du territoire de Masisi des mains des rebelles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et l'armée congolaise lance une patrouille de combat justement sur l'axe Bouerema-Naminova à cheval entre les territoires de Masisi au nord Kivu et celui de Calais au sud Kivu. Selon le porte-parole de la 34e région militaire, l'objectif est de consolider la présence des FRDC sur cet axe. Le lieutenant-colonel Guillaume Mundjike lance par ailleurs un appel à la collaboration de la population dans cette opération. Ces propos sont recueillis ici par la presse du gouvernorat de province.
D'abord, c'était de rassurer que le Force armée de la République démocratique du Congo et ses partenaires continuent à mettre tout en œuvre pour rassurer la population que son armée est bel et bien présente, raison pour laquelle il y a cette patrouille entre le Nord Kivu et le Sud Kivu de Bouremana à Minova. Et de deux, il a fallu, à partir d'ici, passer le message du commandant des opérations au nord, Kivu et au sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée. Et son armée est prête à chasser cet ennemi qui a élu domicile dans ces montagnes et donner la paix et la quiétude à notre population. Donc, le message du commandant des opérations nord et sud Kivu, c'est celui de voir la population se désolidariser de l'ennemi et d'accompagner maintenant son armée et ses différents partenaires pour qu'on arrive à mettre l'ennemi hors du territoire national.
Au Maniema, le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a lancé le lundi 20 mai à Kindu le projet d'appui à la protection de la paix. Ce projet de 12 mois sera exécuté dans le territoire de Kabambare. 300 médiateurs communautaires seront formés pour sensibiliser la communauté sur la culture de la paix et la résolution pacifique des conflits. Marie Nyombo Zaina, coordonnatrice nationale de RENADEF, est au micro de Florence Kizalunga.
Comme vous le savez, la vision de RENADEF, c'est d'accompagner le gouvernement congolais à travers les instruments juridiques, soit que le pays a ratifié au niveau international, ou soit nos planifications normatives qui existent au niveau du pays. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, dont le plan d'action pour la deuxième génération est en train d'être lancé dans différentes provinces. Et je pense pour le Maniema, c'est pour très bientôt, la semaine prochaine ici. Le plan d'action sera lancé et RENADEF est là pour accompagner justement la mise en œuvre de ce plan d'action sur terrain. L'objectif principal, c'est vraiment travailler pour la consolidation de la paix et la protection des femmes et des filles dans des conditions humanitaires précoces ou là où il y a l'insécurité ou les groupes armés ou les guerres ou les catastrophes naturelles et tout, c'est tout ça dont nous travaillons.
Au sud Kivu, suspension de la commercialisation du sable d'Idjui. Décision prise par l'administrateur du territoire insulaire d'Idjui en concertation avec les membres du conseil local de sécurité. Objectif, mettre un terme à l'exploitation désordonnée de cette matière du sous-sol très indispensable dans les travaux de construction à Bukavu et à Goma. Plusieurs ménages vivent pourtant grâce aux activités génératrices de revenus autour de l'extraction et la commercialisation du sable. Mustapha Mamboleo, l'autorité territoriale d'Idjui, revient sur les raisons qui le poussent à prendre une telle décision. Il est au micro de Jean Kassani.
Ça fait longtemps que le sable est exploité dans le territoire d'Idjui, mais comme d'autres minéraux, il n'y a pas d'impact au fait en faveur de la population. Rien n'est laissé à la base lors de l'exploitation, alors que la population devrait vivre les avantages de cette exploitation. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que le sable est exploité en désordre. On ne connaît pas qui exploite réellement, qui vend, qui transporte. On ne connaît pas tous ces éléments. Il y a destruction des routes, destruction des ponts, destruction des maisons même et de certaines institutions de l'éducation comme les écoles. On exploite sans savoir quels sont les sites exploitables, quelles sont les parties de certaines rivières qui ne peuvent pas être exploitées pour éviter de détruire les ponts ou d'autres infrastructures.
Actualité internationale. Le Premier ministre du Tchad, Succès Masra, a annoncé avoir présenté ce mercredi sa démission un peu plus de deux semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis 3 ans.
L'invité.
Des dizaines d'experts du gouvernement et ses partenaires ainsi que du programme national de DDRCS travaillent à l'élaboration d'un plan conjoint des opérations de ce processus. Un atelier de 3 jours est organisé depuis mardi par la MONUSCO. Un document sortira de cette rencontre pour permettre d'accélérer ce programme en Ituri. Le coordonnateur national de PDDRCS, l'abbé Jean Bosco Bahala, parle du déroulement de ce processus en vue de la restauration de la paix en Ituri. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Abbé Jean Bosco Bahala, bonjour.
Bonjour.
Un atelier sur la planification conjointe des opérations PDDCS en Ituri. Pourquoi encore un atelier aujourd'hui en 2024? N'est-ce pas un retour à la case du départ après 2 ans de léthargie?
Non, je dois avouer que en matière de transformation des conflits, en matière de dialogue social, en matière de réconciliation communautaire, en matière de désarmement et de mobilisation dans un processus de paix, on ne compte pas le nombre d'initiatives qui sont prises pour que les choses puissent marcher. Vous savez que depuis la mise en place de la nouvelle équipe, c'est la première fois que je viens à Ituri. Nous sommes venus dans un cadre bien précis. D'abord, nous voulions prendre contact avec les autorités de la province de Ituri. Nous voulions prendre contact avec certaines instances qui sont engagées justement dans le processus. C'est pour ça que vous nous voyez ici devant celui qui gère le bureau de la MONUSCO à Ituri. Si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour qu'on fasse un atelier, parce que cet atelier est une question technique. Lorsque vous planifiez quelque chose, il faut d'abord que les techniciens puissent faire les termes de référence, puissent se rencontrer avec les autres. C'est pour ça que on a reçu un appui de l'unité d'appui à la stabilisation et ensemble avec d'autres instances qui sont engagées dans le processus de paix, notamment par exemple le processus de Nairobi et de Luanda.
Sinon, à quoi va servir ce plan conjoint? La question qu'on se pose, à quand proprement dit le démarrage effectif de ce programme de PDDCS qui a entraîné?
Mais non, le processus qui a été lancé et a déjà porté beaucoup de fruits. J'ai eu 2 séances de travail avec monsieur le gouverneur de province, le général Louboya, qui m'a expliqué le magnifique travail qui a été fait en collaboration avec la MONUSCO. Maintenant, c'est vrai, ce travail doit être fait en profondeur. Il faut aller vers les communautés, il faut aller vers les causes de la belligérance. Il ne suffit pas que des gens viennent signer des engagements de paix et que des massacres et des tueries continuent dans les villages. C'est ça que, si le président de la République, aujourd'hui, veut que l'Ituri puisse être vraiment, qu'on puisse focaliser des efforts sur l'Ituri, c'est parce que justement, on a déjà, effectivement, comme vous l'avez dit, on a déjà fait beaucoup d'accords, beaucoup de chemins, etc. Il faut qu'aujourd'hui, maintenant, on se recentre sur l'essentiel. Par exemple, je suis en train d'effectuer une visite à des notables, à des membres des communautés. Ils m'ont envoyé, ils m'ont donné toute une liste de leurs desiderata. Nous les rencontrons pour qu'ils puissent devenir demain, tous ces notables, qu'ils puissent devenir demain les protagonistes. Nous préparons avec Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO et archevêque de Kisangani, avec qui on est en train de préparer une grande conférence. Et nous voulons que demain, si le président de la République vient ici, qu'il puisse voir qu'il y a des résultats sur le terrain, que nous puissions rassembler tout le monde, ceux qui ont accepté le processus de paix, et qu'on voit qu'ils ont rendu les armes, que certains d'entre eux, ces armes, on les présente quand on est en train de les démanteler et que tout le monde prenne maintenant un engagement ferme parce qu'il y a du résultat.
Tout ça, j'imagine, ça demande de moyens. Est-ce que le fonds est disponible pour pouvoir mener à bien tous ces vastes programmes?
Nous venons à peine de commencer notre travail il y a 5 mois dans une période où en réalité il n'y a pas de gouvernement. Vous le savez bien que le processus de mise en place du gouvernement n'est pas encore là. Et si vous parlez du gouvernement, ça signifie que les moyens fonctionnels de l'État, ils doivent venir du gouvernement. Nous n'avons pas baissé les bras, nous ne sommes pas restés inactifs. Le temps que nous attendions, par exemple, ces financements réels pour que nous puissions faire fonctionner tout ce qu'on a mis en route. Mais nous avons fait du travail. Nous avons continué la conscientisation des groupes armés. Nous savons aujourd'hui qui sont prêts à rejoindre le programme et ils sont très nombreux.
Donc je retire côté gouvernement, il n'y a pas encore les fonds. Les fonds n'est pas encore disponibles, on attend.
Je ne dis pas que les fonds ne sont pas encore disponibles, les fonds sont en processus parce que le budget de l'État a déjà été voté et donc tout le monde sait très bien que ça ne fonctionne pas comme automatiquement dans une semaine ou dans trois jours, etc. Mais nous savons que nous connaissons déjà le budget dont nous disposons et donc ce budget sera certainement dans les jours à venir engagé pour que nous puissions faire le travail qu'il faut.
Abbé Jean Bosco Bala, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Merci de l'avoir suivi. Un journal mis en onde par Billy Landry Betou sous la coordination de Élisée Chikota Chivueta.